Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Samuel Bernard, Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et à la technique ce matin, Anthony Thomasson. Toute cette semaine dans Culture Monde, une série consacrée à la téléphonie mobile alors que s'ouvre aujourd'hui à Barcelone le sommet mondial du téléphone portable. Ce téléphone intelligent qui a révolutionné nos vies, nos économies et même notre environnement ces dernières décennies. Demain, direction l'Afrique où l'équipement portable révolutionne les usages et l'économie. Mercredi, nous poserons la question de la protection de nos données. Et enfin, jeudi, nous nous intéresserons à l'impact social et environnemental de la fabrication de nos chers smartphones. Mais ce matin, on parle télécom et géopolitique. Chine, Europe, États-Unis, la bataille de la 5G.
Let's get back to the story of the day, the market story of the day, the arrest of the Huawei executive.
Huawei a tout mis en œuvre pour copier un robot fabriqué par l'entreprise américaine T-Mobile, destiné à tester les téléphones portables. Des ingénieurs de Huawei ont pris des photos en cachette, mesuré le robot et même volé des pièces.
Depuis un certain temps, les États-Unis calomnient et répriment les entreprises chinoises. Les Américains tentent d'entraver leurs activités normales. Il y a une forte motivation politique et des manipulations derrière tout ça.
Nous devons parler à la Chine pour nous assurer que les entreprises ne transmettent pas l'ensemble des données à l'État chinois. Il faut des garde-fous. Si vous travaillez en Allemagne, l'État chinois ne doit pas pouvoir accéder aux données stockées sur des produits chinois.
C'est dans un climat de tension que s'ouvre aujourd'hui à Barcelone la nouvelle édition du Congrès mondial du téléphone portable. Grand messe des professionnels du secteur qui présentent chaque année leurs dernières innovations et autres bijoux technologiques. Il pourrait cette année avoir des allures de champ de bataille géopolitique car c'est une véritable guerre que se livrent non seulement les géants du numérique mais aussi les États pour la maîtrise et la mise en place de la fameuse 5G, la cinquième génération de la technologie de communication sans fil qui devrait être mise en place d'ici 2020. Un nouveau réseau bien plus puissant que l'actuel 4G, conçu non seulement pour les téléphones, mais aussi pour les objets connectés, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle. Une transition aux perspectives économiques vertigineuses, mais pas seulement. En 2012, les États-Unis ont exclu de leur marché l'entreprise chinoise Huawei, l'actuel leader du secteur, et font pression sur leurs alliés pour qu'ils fassent de même. Huawei, selon eux, utiliserait les réseaux pour se livrer à de l'espionnage. Des accusations démenties fin janvier par le leader du groupe, mais qui ne semble guère avoir rassuré ni ses concurrents ni ses partenaires. Le géant Huawei est-il vraiment l'œil de Pékin? Et si oui, faut-il l'exclure des marchés, quitte à se priver de ses services actuellement les plus compétitifs? Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour empêcher la Chine de devenir le leader mondial? Enfin, l'Europe aura-t-elle son mot à dire dans cette bataille, tant sur le plan commercial que diplomatique? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous sommes en compagnie de deux invités pour en discuter. François Godemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po, pardon. Vous êtes aussi directeur du programme Asie et Chine du European Council on Foreign Relations et vous êtes co-auteur avec Abigail Vasselier, c'est votre dernier ouvrage, de La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe. C'était paru chez Odile Jacob l'année dernière. Et à vos côtés, Julien Nocetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous aviez écrit pour la revue Politiques étrangères à l'été 2018 un article intitulé « Géopolitique de la cyberconflictualité ». Je commence avec vous, Julien Nocetti, pour poser peut-être un petit peu les enjeux de cette bataille. La 5G, ça sert à quoi concrètement et pourquoi est-ce qu'il apparaît absolument urgent ces derniers temps d'être le pays qui va devenir, dont les entreprises vont devenir leader dans l'installation et la maîtrise de cette fameuse 5G?
Effectivement, c'est un sigle, la 5G, qu'on martèle à tout va dans les reportages, les médias et les discussions d'experts. C'est un petit peu comme l'intelligence artificielle où au fond on parle beaucoup des enjeux et de la portée de ces technologies sans savoir précisément quelles en sont les applications pour nous avant tout société. Alors il faut quand même poser un peu le contexte, c'est qui est le suivant, c'est que c'est une technologie de rupture, comme l'IA d'ailleurs, et si on devrait comparer la 5G à une partie du corps, ce serait plutôt l'épine dorsale, c'est-à-dire que ça va vraiment porter toute la connectivité des objets. Donc vous parliez des smartphones, mais à l'avenir, les véhicules autonomes, les services médicaux ou d'enseignement en ligne, la robotisation des champs de bataille, les drones, etc., tout ça sera porté par des réseaux ultra rapides, ultra performants et qui reposeront sur la 5G.
Donc c'est pas qu'une question de vitesse, parce que quand on est passé de la 3G à la 4G, on parle d'augmentation du débit, de la performance, mais là, si on comprend bien, vous parlez de rupture, donc on passe à un autre stade. Pas seulement une amélioration.
Voilà, exactement. C'est un autre stade. Et si vous voulez, la 5G permettra une instantanéité des débits et de multiplier toutes les applications possibles, imaginables en matière d'intelligence artificielle. Et ça va se traduire à la fois par des applications très concrètes dans le domaine civil et militaire également. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme dans la plupart des champs du numérique, les applications sont duales. Donc à la fois commerciales et sécuritaires.
François Gonnement, vous partagez ce constat ?
Oui, d'abord, je suis aujourd'hui directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, en fait.
On va corriger ça tout de suite.
Mais depuis le 1er janvier, donc c'est pas étonnant que vous soyez trompé. La 5G, pour moi, c'est d'abord une norme, un standard. C'est pas encore la technologie. Il y a des technologies qui vont permettre de mettre en application la 5G. Et là, il faut faire un flashback. Il y a 25 ans, le GSM, le fameux GSM, c'est le même G, et la norme européenne GSM, qui s'était largement imposé, notamment en Chine, en partie parce que les États-Unis agissaient en ordre dispersé, avec quantité d'hésitation locale sur la norme. Et puis les États-Unis ont regagné du terrain, et aujourd'hui c'est la Chine qui galope avec le 5G. Alors oui, c'est plus qu'une rupture, c'est un changement d'univers, y compris très concrètement pour les individus qui utiliseront la 5G. Pourquoi ? Parce que la 5G les utilisera aussi. La 5G permet la communication entre ce qu'on appelle l'Internet des choses, les objets connectés. Déjà aujourd'hui, on en a plus autour de nous qu'on ne croit. Généralement, on estime dans les pays développés que la quantité d'objets connectés autour d'un individu se situe entre 20 et 40. Ça vous surprendra.
Vous pensez à quoi concrètement ?
Bien sûr, à certains réveils connectés, aux assistants personnels que développent certaines entreprises, à des puces dans les voitures pour alerter si vous avez un crash, par exemple, pour ne prendre que ces exemples. Mais ce sera absolument généralisé et en temps réel. Linksys, d'une certaine manière, le compteur EDF auquel certains s'opposent, c'est aussi le prototype d'un objet connecté, rendu possible d'ores et déjà. Mais là, ça sera beaucoup plus important, ce qui veut dire que le champ des informations transmises est absolument gigantesque. La notion en particulier de confidentialité des informations devient absolument cruciale. Et c'est là qu'on observe un effort gigantesque d'un pays, la Chine, et non pas d'une, mais de plusieurs entreprises. Huawei attire la foudre comme un paratonnerre, si vous voulez, pour prendre l'avance dans cette technologie.
Et justement, j'allais vous dire, François Gonnement, aujourd'hui, Huawei est devenu le leader de la mise en place de la 5G. Il a pris une avance considérable sur ses concurrents. Et justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut dire Huawei est leader ou bien la Chine est leader ?
Huawei est vraiment une entreprise qui, en quelque sorte, est responsable des accusations contre elle parce que elle a toutes les apparences de la culpabilité. Et ce qui est difficile aujourd'hui de dire, est-ce que c'est un délit de faciès ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de choses substantielles ? On va commencer. Un fondateur militaire, un actionnariat que Huawei prétend être celui littéralement d'une SCOP. Vous vous rappelez les vieilles cantines ouvrières françaises, celles qui devaient sauver l'IP par exemple, 153 employés de Huawei qui seraient les principaux détenteurs de l'entreprise, mais on ne sait jamais comment ni pourquoi. Un passé lourd. Quand le régime des talibans régnait sur l'Afghanistan, c'était déjà Huawei qui l'équipait en fibre optique, par exemple. Est-ce que vraiment c'est une entreprise privée qui se décide à cibler comme marché privilégié l'Afghanistan des talibans, ou est-ce que ça n'est pas plutôt l'État chinois ? Ensuite, la propagande et l'activité d'influence qu'ont fait Huawei dans le monde entier. Les colloques un peu partout, à Bruxelles, si on prend l'Europe, à Bruxelles, à Paris, dans des lieux de pouvoir, très souvent. le conseil, la commission des conseillers internationaux de Huawei, toujours constituée de personnalités qui jouent un rôle. Les centres de recherche distribués comme des cadeaux de Noël. 3 en France, 5 centres d'innovation en Espagne. Ça ressemble plutôt, je dirais pas des ateliers nationaux, mais à des moyens de se concilier des bonnes grâces locales, si vous voulez. Une campagne frénétique, en Europe notamment, pour le gagnant-gagnant, l'Internet ouvert et inclusif. Excusez-moi, mais l'Internet ouvert et inclusif, c'est exactement le contraire de ce qui existe en Chine. Donc Huawei a attiré l'attention, bien plus que ZTE, entreprise concurrente qui fait plus ou moins la même chose, si vous voulez, et c'est devenu une bagarre symbolique.
Mais en quoi tous ces éléments que vous venez de nous lister, qui décrivent bien l'entreprise Huawei, font d'elle ce que vous avez dit, c'est-à-dire le coupable idéal? Julien Nocetti, on peut peut-être aussi rappeler ce qu'on reproche à Huawei, essentiellement de se livrer à des activités d'espionnage. Est-ce que c'est fondé, ça?
Alors, c'est une question au départ américaine. Il faut bien rappeler ça, parce qu'en fait, le camp occidental est profondément divisé, aujourd'hui très éclaté, vis-à-vis justement de cet acteur chinois. Alors, au départ, il s'agit d'accusations d'espionnage qui ne sont pas nouvelles. Elles remontent à 2003, où à l'époque, un acteur américain majeur, Cisco, avait accusé Huawei d'avoir piraté une partie de son code source.
Donc, Cisco qui est concurrent de Huawei.
Qui est concurrent aujourd'hui, et d'ailleurs, on observe un parallèle très très amusant, c'est que les autorités américaines poussent d'une certaine manière Cisco à faire un effort de rattrapage massif en matière de 5G. Donc d'une certaine manière, Washington aujourd'hui soutient Cisco de la même manière que Pékin soutiendrait Huawei. Donc c'est très 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 paradoxal et très révélateur aussi de ces enjeux de puissance bilatéraux. Donc enjeux d'espionnage. Puisque via la 5G, vous auriez la capacité d'aller voir ce qui se passe dans les routeurs et dans les antennes relais qui seront déployées massivement sur les territoires. Même si, à mon sens, il y a peut-être trop d'attention portée à cette question au détriment de l'enjeu du risque de sabotage, précisément. C'est-à-dire en cas de conflit entre Pékin et un autre pays, Pékin via Huawei aurait les moyens de déconnecter une partie des infrastructures et des réseaux de l'ennemi, de l'adversaire dans ce conflit. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à émerger lentement mais sûrement chez les états-majors et les chancelleries, mais vous avez ce double enjeu du sabotage et de l'espionnage qui est aujourd'hui mis en avant par Washington et de plus en plus les pays européens.
Alors comment est-ce qu'on explique que Huawei ait pris tant d'avance par rapport à ses concurrents? Alors il faut aussi rappeler que Huawei, c'est à la fois un fabricant de téléphones portables. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 mondial derrière Samsung. Il a détrôné Apple sur la question de vente. Et par ailleurs, c'est donc un installateur d'infrastructures, pour le dire de manière simple. Je suis pas spécialiste. Mais voilà, comment est-ce qu'on explique l'ascension fulgurante? Vous nous avez donné déjà quelques éléments, François Gaudement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question des investissements massifs réalisés par l'entreprise, une entreprise qui investit considérablement, notamment dans la recherche et le développement. C'est ça qui explique le succès de Huawei?
Oui, probablement, et aussi la qualité de leurs techniciens et de leurs équipements. Derrière le financement, il faut bien dire qu'il y a l'État chinois, en particulier la Banque chinoise de développement, la China Development Bank, a financé Huawei à tire-larigot. J'ai le souvenir, après avoir critiqué Huawei, un jour de me rendre en Chine pour un entretien avec le secteur international de la CDB et de me voir directement reprocher d'avoir critiqué nos amis Huawei. Or, CDB, c'est une banque dite de financement public, si vous voulez, qui dépend étroitement du gouvernement. Donc, il n'y a absolument aucun doute de la Chine de ça, mais à vrai dire, la Chine revendique. Elle revendique les politiques industrielles, elle revendique les politiques technologiques. Et je dirais que dans l'espionnage dont vous parliez tout à l'heure, il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer. Que Huawei pille les technologies de ses concurrents, c'est ce qu'énormément d'entreprises chinoises font ou essayent de faire. Qu'elle ait des jeux d'influence pour s'imposer comme réseau dominant ou dans des fournisseurs d'équipements, elle va visiblement très loin, mais on est encore dans le classique. La vraie question, c'est est-ce que la 5G ouvre la porte à un espionnage beaucoup plus généralisé? Et là, on n'a pas de réponse. On a des cas d'interrogation assez mystérieux, par exemple les allers-retours au Royaume-Uni. Huawei a accepté la constitution d'une sorte de commission ou de centre d'évaluation et d'inspection de ces technologies qu'il finance, qui est en principe, je dis bien en principe, dirigé par le gouvernement britannique, dont on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup d'employés venaient en fait directement de Huawei, ce qui pose un autre problème, même s'ils sont de nationalité britannique. Et on voit les Britanniques osciller considérablement sur ce sujet. Or, les Britanniques, il faut se souvenir, non seulement ils sont alliés des Américains, mais ils sont dans le réseau des cinq grandes entreprises d'intelligence.
L'alliance des services de renseignement, ce qu'on appelle les cinq yeux, les Five Eyes.
Les services de renseignement. Ils jouent un rôle crucial. Les autres, quand on parle des Européens, par exemple, beaucoup agissent de façon absolument aveugle, n'ont pas la moindre idée, comme vous et moi d'ailleurs, de ce que Huawei fait vraiment.
Donc pour l'instant, les accusations d'espionnage, très concrètement, on n'a pas de preuves pour dire, ni techniquement, ni dans les faits, Huawei s'est livré soit au siphonnage d'informations industrielles, soit des informations politiques ou diplomatiques. Pardon, Julien Nocetti.
Oui, c'est tout à fait notable d'ailleurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aucun service de renseignement n'a clairement prouvé que Huawei avait installé des backdoors, ce qu'on appelle des portes dérobées, au profit de Pékin pour accéder aux données qui transitent par ces réseaux. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, parce que quand on se souvient cinq ans avant avec les révélations de Snowden sur l'espionnage de la NSA, c'est précisément ce que Snowden avait révélé, c'est-à-dire l'installation de portes dérobées qui ont permis aux services américains d'espionner quantité de données. Et là, avec l'affaire Huawei, on se situe dans une perspective un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de preuves et on est entré dans un jeu diplomatique extrêmement dense et très très violent d'ailleurs.
Et par contre, ce qu'on sait, François Gonnement, c'est que en 2017, une loi sur le renseignement avait été votée en Chine qui dit, alors je cite, « Toute organisation ou citoyen doit coopérer avec le renseignement national ». Donc, on imagine que si Huawei tombe sur des informations confidentielles, stratégiques, il ne pourra pas ne pas les communiquer au gouvernement.
Ben oui, c'est exiger la vertu de quelqu'un qui a, par principe, souscrit en vice en Chine. Et on met côte à côte les affirmations, le cœur sur la main des patrons de Huawei à l'étranger, et ce qu'ils sont obligés de dire en Chine, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le Parti communiste, que le Parti communiste est présent dans leurs entreprises, qu'ils sont un élément de la stratégie d'ensemble. Il y a quand même au moins un cas où il y a, je dirais pas le feu démontré, mais un peu de fumée. C'est l'affaire de l'Union africaine, cette organisation régionale africaine dont le siège est à Addis Abeba, dont on a su que pendant des années et des années, elle a été hackée depuis la Chine, y compris dispositifs d'écoute, dispositifs dans les serveurs, etc. Or, à 95%, le fournisseur, c'était Huawei. C'est pas tant que Huawei elle-même aurait pratiqué la chose qu'il faut essayer de réfléchir comment, pendant des années, Huawei aurait pu ne pas le savoir du tout, ne pas s'en rendre compte du tout de ce hacking et donc ne pas prévenir l'Union africaine et ses représentants. Là, on approche un peu du sujet.
Julien Nocetti, vous vouliez réagir peut-être ?
Pas cette question.
Comment est-ce qu'on peut qualifier plus généralement, la stratégie, je reviens un peu sur la stratégie de Huawei, comment elle s'inscrit dans une stratégie globale de la Chine, dans une conquête à la fois des technologies, mais aussi des marchés d'un très grand nombre de secteurs, en fait ? François Gonnement.
Huawei, c'est un exemple de technologie parmi d'autres. Dire que c'est la conquête, je ne veux pas employer des termes militaires, c'est un modèle d'organisation industrielle et technologique qui, c'est vrai, ressemble plus à l'État prussien ou au colbertisme industriel des années 50, d'ailleurs. Vous savez, Alcatel ne s'est pas développé en son temps avec des recettes extraordinairement différentes. Et le problème des backdoor qu'Alcatel pouvait installer dans des standards à l'étranger, par exemple, pour ne pas parler de la France, a existé en son temps. Il faut pas croire que qui que ce soit innocent par principe. Mais la Chine a un dirigisme industriel et technologique. Elle voit loin. Elle investit très fort. Elle est capable de soutenir des pertes très importantes de façon transitoire. Ces pertes, elles sont portées une partie par la population dont le taux d'épargne est gigantesque parce qu'il part épargne de précaution pour cause de manque de système social pour l'instant, pour une partie par les excédents du commerce extérieur. Et donc, c'est une force de frappe financière concentrée que le régime a mis au service des entreprises. Mais en effet, si on parlait des panneaux solaires, si on parlait des batteries électriques pour les voitures de demain, si on parlait de l'industrie navale et des navires de croisière, par exemple, on arriverait aux mêmes constatations. C'est une stratégie des créneaux qui nous rappelle ce que les pays en voie de développement rapide ont fait il y a 30 ans ou 40 ans. Il n'y a pas de mystère. Simplement, c'est à une échelle très, très augmentée et avec un marché intérieur chinois qui est gigantesque, un aspect dont on n'a pas encore parlé.
Dans votre ouvrage, François Godemon, vous dites que le matériel informatique, les logiciels et les communications dominent de plus en plus le secteur militaire. La question du double usage de ces technologies prend une importance militaire. Et c'est vrai, tout à l'heure, Julien Nocetti parlait aussi de cet enjeu militaire. Est-ce que là, il faut y avoir une inquiétude, donc au-delà de la compétence, au-delà de la compétition économique, mais aussi pour un double usage de ces infrastructures à la fois civiles et militaires?
Bah, ce que disait Nocetti tout à l'heure, l'instantanéité de la transmission des données, c'est évidemment le rêve de toutes les armées dans de nombreux domaines. Le cas positif, c'est bien sûr que vous pourrez faire des opérations de microchirurgie à distance. Vous vous rendez compte? Alors qu'actuellement, les délais de transmission font que la main du chirurgien va être trop lente. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est bien sûr l'accélération extraordinaire des temps de réponse et donc toutes sortes de technologies militaires qui deviendront plus solides, plus dures.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. Guerre de la 5G, la bataille a commencé. On en discute jusqu'à midi avec François Godemon et Julien Nocetti. Huawei a été écarté du marché de la 5G par les États-Unis. C'était en 2012. Ça a été le cas aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je crois que le Japon est aussi sur le point de procéder à une telle éviction. Et les États-Unis, bien sûr, font pression sur leurs alliés pour que eux aussi écartent Huawei. Est-ce que le terme de guerre froide technologique vous paraît approprié pour qualifier la bataille qui se joue actuellement sur cette technologie de la 5G, ou est-ce qu'on exagère un petit peu, Julien Nocetti?
J'ai longtemps été réticent sur justement l'emploi de métaphores liées à la guerre froide pour décrire tout ce champ numérique et les rivalités qui s'y nouent. Par contre, ce qui se passe actuellement me fait un peu penser à la structuration de deux camps opposés, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les États-Unis qui font pression sur leurs alliés pour conserver des équipements liés aux grandes plateformes américaines, aux grands équipementiers américains, et qui ont vocation à équiper les pays de l'OTAN et les alliés des États-Unis, et de l'autre côté équipementiers et plateformes chinoises qui s'internationalisent progressivement de façon remarquable avec Huawei et ZTE en particulier, mais aussi les autres BATX dont il est souvent question aussi, et ces équipementiers qui ont là, du point de vue de Pékin, vocation à fournir et à équiper l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Donc on est vraiment dans des enjeux de bataille, enfin très 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 rangés, et l'Europe est un peu prise en étau entre ces deux stratégies américaines et chinoises dont elle souffre aujourd'hui. Donc... Et une partie non négligeable des enjeux autour de la 5G a trait à l'Europe.
Donc deux camps, une bataille plus ou moins indirecte avec chaque camp qui tente de rallier des pays aux siens. François Godemon, la pertinence avec, non pas la guerre froide, mais les structures de la guerre froide. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis sceptique sur le terme de guerre froide, même aujourd'hui d'ailleurs, parce que je voudrais quand même souligner les enjeux économiques qui sont quand même très importants et distincts de la guerre froide. Pendant la guerre froide, on n'avait pas interdit les fabricants de téléviseurs soviétiques sur notre territoire parce qu'ils n'existaient pas. On est dans une Chine qui est extrêmement différente, qui est pour une partie capitaliste d'État peut-être, mais qui est un concurrent redoutable. Donc il faut voir aussi un certain nombre de choses qui concernent la 5G. L'asymétrie d'accès, l'absence de symétrie dans l'accès, par exemple. Ces entreprises sont très présentes, ces entreprises chinoises. Nos entreprises ont, quand je dis nos entreprises,
les entreprises européennes
en particulier, ont encore un accès à certains aspects du marché chinois, mais ça va plutôt en diminution, et la tendance officielle en Chine, c'est d'indigéniser autant que possible les technologies. Le contrôle des données, des débits, ça a des applications commerciales gigantesques. On parlait tout à l'heure de la capacité de l'espionnage à travers le réseau. Mais songez aujourd'hui, toute la publicité, tout Internet est fondé sur un soi-disant la gratuité, en réalité, l'exploitation des données que vous, consommateurs, utilisateurs, vous fournissez gratuitement. Donc des questions beaucoup plus larges d'accès aux données, de localisation au serveur, de transmission à des tiers, si vous voulez, pour des fins commerciales, on ne parle pas là d'espionnage. C'est extrêmement important. Et là, la Chine est le plus souvent à l'opposé des pratiques ou des restrictions occidentales sur un plan purement économique et commercial. Donc cet aspect-là joue beaucoup aussi. Et bah, il faut bien dire que nos fabricants se sont petit à petit laissés déshabiller, en Chine même de leur technologie, en Europe par l'absence d'une politique industrielle ou technologique très coordonnée, de soutien, si vous voulez, aux États-Unis, je crois, par l'idéologie du libre-marché qui a fait des ravages dans les aspects commerciaux, distribution de ces technologies.
Et dans votre ouvrage, vous décrivez bien d'ailleurs la stratégie de la Chine, notamment en Europe, et sa manière d'infiltrer ou de récupérer des marchés. Alors, pas forcément justement, en particulier de Huawei, pas forcément en rachetant, mais en créant des filiales locales. Il y a un pays notamment où Huawei est particulièrement implanté, c'est la Hongrie. Pourquoi la Hongrie ?
La Hongrie l'a été, Viktor Orban qui vend aussi des visas et des permis de séjour Schengen, c'est une ressource pour le budget public hongrois et peut-être au-delà. Il y a eu un mariage effectivement jusqu'au service d'urgence de la Hongrie, y compris la police fournie par Huawei. Mais la Hongrie recule un petit peu sur ce terrain actuellement. En réalité, je crois que le pays dans lequel Huawei a le plus profondément entré sur le plan des consommateurs, des centres, des entreprises de téléphonie mobile, c'est l'Italie. Beaucoup plus. De façon économique, c'est beaucoup plus important. Et ça pose problème. Et vous voyez aujourd'hui, dans le débat sur Huawei, des membres du gouvernement italien prendre des positions pratiquement a priori favorables avec Huawei. On peut le comprendre d'une certaine manière, parce qu'ils sont tellement engagés que reculer, ça sera difficile.
On peut parler de vulnérabilité à cet égard, Julien Dossetti, de l'Italie en particulier, mais de l'Europe en général.
L'Europe en général. Je ferai juste un petit complément. Au propos de François Godemont, en parlant de la Hongrie, et plus largement, je dirais que le continent européen dans son ensemble est un débouché bienvenu pour la Chine de son projet des routes de la soie numérique. Voilà, ce projet a un volet numérique tout à fait substantiel, et via l'installation de câbles sous-marins, de data centers, hein, donc de centres d'hébergement de données, et via des politiques aussi très agressives en matière d'équipement réseau, indication de Huawei ce matin, les autorités chinoises pourront parvenir justement à mailler tout le continent asiatique de leurs propres services et équipements. Donc le continent européen est vraiment un des enjeux majeurs de cette rivalité aujourd'hui. Et pour reprendre l'exemple de Huawei, c'est le continent européen qui a permis à Huawei de doter la société d'une image de constructeur haut de gamme. Jusqu'à présent, c'était plutôt un équipementier, réseau et construire des smartphones plutôt bon marché qui avait vocation à être exporté en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Mais était plutôt méprisé par les amateurs de smartphones haut de gamme. Donc on est vraiment dans un enjeu aussi très très européen dans cette affaire autour de Huawei.
Et je reviens sur cette question de la vulnérabilité. Est-ce que le fait que Huawei soit très présent sur le marché européen rend de fait certains pays dépendants d'une certaine manière? Cette question de la dépendance, je vous la pose parce que derrière la 5G, on a l'impression que ce qui se joue aussi, c'est une question de souveraineté nationale, c'est-à-dire la capacité à rester autonome et maître de ces infrastructures de télécom.
Qui se pose beaucoup plus largement dans le contexte numérique d'aujourd'hui, à la fois en matière d'intelligence artificielle, de souveraineté des données également. Donc l'enjeu de la 5G cristallise un petit peu tous ces enjeux à propos desquels on est coutume de critiquer l'Europe, hein, c'est-à-dire d'une faiblesse en matière numérique, d'une faiblesse industrielle, et d'une capacité de réaction très dispersée. Donc là, avec la 5G, on est en plein dans ces...
François Godemont, sur cette question de la souveraineté, je ne vous voyais pas forcément d'accord.
C'est-à-dire, si, avec ce qui est dit, mais les auditeurs risquent d'en tirer l'impression qu'on peut restaurer notre souveraineté numérique comme ça, dans nos frontières, et s'abriter. La souveraineté numérique, ça fait longtemps qu'on l'a abandonnée avec la globalisation des télécommunications dans leur ensemble et la transmission des flots de données. On peut essayer d'établir des barrières. À l'échelle nationale, c'est pratiquement impossible. Et je ne parle pas seulement de la 5G. Mais pour prendre l'exemple de la 5G, quelle instance technique actuellement est capable de dire si une faille dans le réseau 5G à un endroit suffit pour accéder à l'ensemble du réseau? Vous n'avez pas besoin d'être en France pour prendre cet exemple. Vous pouvez être dans un pays voisin, pénétrer, le réseau français le sera autant. Ou bien, quand vous voyez le gouvernement français songer, comme c'est le cas aujourd'hui, à autoriser les équipements 5G dans des serveurs en province, mais pas en Île-de-France, ça ressemble un peu à un conflit qu'on voit dans la rue aujourd'hui, la province contre Paris, c'est assez drôle. Quelle garantie on a qu'une fois qu'on est ailleurs, on n'est pas à Paris aussi On ne sait pas, on n'a pas la réponse. Et par conséquent, c'est ce qui justifie des réponses aussi coordonnées et vastes que possible. C'est ce qui pose le problème européen en particulier.
Restez avec nous, on se retrouve dans une minute. And when that clock hits six, then I get off. But I be getting off prior to that. On my breaks to a day, can't fire a cat. Mandated by the state on the IM chat. Reply back after doing a few choice moves just like that. One guy from Chappelle, precise as hell. Now the whole floor does it. It's nice for sales. It could have been a running man. But damn, if the logic don't stamp at ironic, we dance a robotic. Cyberspace bound, put it down for the stiffs. When I post the link, you equipped with the gift for the indie. I really know it starts as a raw. Put it on YouTube. Dude, I'm a star like an Indian midget with the rigidest D's. Hit the boombox, moonwalk, freeze. The bubble in a cyberspace. The bubble in a cyberspace. From the London you interface. The bubble in a cyberspace.
Boot up your RAM and land on the web. Who got the jam and scanned by the feds?
We do.
Okay, I see you right click. As long as you get to pump that electric laser 5-5. You know the flavor's hella tight. Put it in the email, send it to a friend. Tell them throw a party, maybe sip a little gin. If they had a job, maybe lob a little grin. Stop, do the robot, back to work again. Back to more clicking, thinking of spending time on the net with your digital friends. Ayo, technology makes no sense unless we put it to work. At the root of every social ill. But first, let's make it do something new.
C'était Giant Panda, un groupe californien, un titre de 2008, Do the Robot in Cyberspace. Je ne sais pas si vous connaissiez ce titre, Julien Nocetti.
Du tout.
Allez, on est toujours en compagnie donc de Julien Nocetti, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et François Godemont, conseiller Asie pour l'Institut Montaigne. Voilà votre bonne présentation. On discute de la guerre de la 5G, cette guerre qui a commencé il y a quelques années, mais qui semble s'accélérer ces derniers temps. Je le disais, les États-Unis font pression sur leurs alliés pour qu'ils eux aussi excluent les Chinois et en particulier l'entreprise Huawei de cette course à l'installation des infrastructures de la 5G. Quel serait l'intérêt aujourd'hui des alliés des États-Unis à les suivre dans cette bataille contre la Chine ? Julien Nocetti ? À part la fidélité aux États-Unis, mais bon, cette fidélité peut être mise à épreuve, étant donné notamment le caractère de Donald Trump.
Dans cette affaire est que les Américains font pression au plan économique et aussi au plan sécuritaire, c'est-à-dire qu'ils mettent dans la balance aussi l'appartenance de leurs alliés à l'OTAN. Donc c'est une manière de dire, écoutez, on vous fournit un parapluie sécuritaire, donc faites un effort au plan commercial et excluez Huawei de vos appels d'offres.
C'est une forme de chantage.
C'est une forme de chantage, oui, qui est tout à fait caractéristique aussi des pratiques du président américain. Donc ça, c'est pas surprenant. Après, ça peut aussi poser la question de la constance de l'approche de Trump si un deal commercial venait à être conclu. C'est-à-dire, est-ce qu'il maintiendrait son approche aussi dure vis-à-vis de Huawei? Rien n'est certain. Donc on est aussi dans un contexte où la présidence américaine est très variable.
François Godemont.
Il y a effectivement un chantage américain que Mike Pompeo a exprimé très clairement en Europe. Et on voit que quand un pays comme la Pologne, par exemple, arrête pour espionnage deux personnes, dont un ancien chef du contre-espionnage, quand même, en les accusant d'avoir espionné pour le compte de Huawei et de la Chine, il suit aussi de près la thèse américaine. On attend un peu la démonstration. Mais il y a un problème plus large pour moi, qui est de savoir si, au vu de ces flots de données gigantesques, à peu près incontrôlables, et au vu de l'asymétrie dont je parlais, l'absence de symétrie encore une fois, il va pas y avoir une tendance à fragmenter le marché mondial des données. Nous-mêmes, nous y contribuons d'une certaine manière. Quand Julien Nocetti disait avec justesse, il y a un problème de la localisation des serveurs. Si les serveurs de données sont chez nous, si les clouds dont tous les usagers se servent aujourd'hui sont détenus chez nous, entre guillemets, en Europe, il y a peut-être un peu moins de chances qu'ils soient aspirés par d'autres. Mais ça mène petit à petit à la fragmentation des systèmes de données.
Mais quelles en sont les conséquences ? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des systèmes Internet ou des systèmes de connexion à 2-3 vitesses ou des systèmes parallèles ? C'est ça que vous entendez par la fragmentation ?
Absolument, avec des possibilités d'accès tout à fait différente et on créerait en quelque sorte les murailles que la Chine a tente de créer autour d'elle depuis longtemps. Personnellement, je suis très sceptique sur l'aspect précisément guerre froide, efficacité, parce que malgré tout ce qu'on raconte sur le hacking chinois dans beaucoup d'instances sans démontrer avec des unités de l'armée chinoise, j'ai un peu de mal à penser que certains occidentaux n'ont pas des capacités équivalentes et on en entend peut-être moins parler. Donc ce conflit probablement se poursuit dans l'ombre, si vous voulez. Mais par contre, pour l'utilisateur, je dirais, ordinaire de données, ça va évidemment créer des barrières dans tous les sens. Et il n'y a pas que la Chine. Hein. Il y a un pays comme l'Inde, par exemple, est aujourd'hui un acteur considérable sur le plan économique, sur le plan du marché pour les technologies, et parce qu'il veut, en quelque sorte, renationaliser, relocaliser ses données, peut-être en avoir le contrôle et y avoir un accès. Également.
Et des barrières, il en existe déjà. Par exemple, en Chine, de nombreux acteurs Internet, on pense à Facebook, Google, les géants de la Silicon Valley, n'ont pratiquement ou quasiment pas accès aujourd'hui aux internautes chinois. Donc, ce que vous décrivez d'un système fragmenté et des internets à deux vitesses, enfin, je ne sais pas si c'est deux vitesses, mais en tout cas, des systèmes qui coexistent, ça existe déjà.
Ça existe déjà, mais la Chine est effectivement, pour l'instant, un cas à part, parce qu'elle est en elle-même un marché monde, donc suffisamment grand pour nourrir des acteurs de taille équivalente, ou d'ailleurs plus grand que les acteurs occidentaux. J'entendais hier, je crois que c'était au journal de 20h d'une grande chaîne, qu'Amazon, par exemple, serait le premier distributeur mondial d'e-commerce. C'est pas vrai, c'est Alibaba, grâce au marché chinois. J'entendais hier que le marché français de distribution des objets des ventes par correspondance, enfin, ce qu'on appelait les ventes par correspondance, c'est gigantesque, c'est 505 millions d'objets. En Chine, aujourd'hui, c'est 50 milliards. On a une société qui était arriérée, qui était dépourvue de moyens de communication et de technologie, et qui a, à cause de ça, brûlé les étapes et passé devant avec une population de consommateurs extrêmement flexibles et adaptables. Et donc, quand on parle de fragmentation, ça peut être soit la Chine contre tous les autres, si j'ose dire, ou la Chine et ses dépendances, les gens qui l'acceptent, et tous les autres, ou bien ça peut être américain, chinois, et le problème, c'est la souveraineté numérique européenne, c'est les acteurs numériques européens dans ce cas-là, c'est la capacité de mettre en place un marché. On a 400 millions de personnes, en comptant que le Royaume-Uni est parti, on a la première économie mondiale en taille, pour l'instant, mais on n'a pas la capacité de faire ça.
Julien Nocetti.
Voilà, tout à fait. Le premier est très large, en fait. C'est que les briques technologiques sont aujourd'hui désormais soit chinoises, soit américaines. Et aujourd'hui, dans l'affaire Huawei, pour l'Europe, c'est que on est face à un dilemme entre obéir aux États-Unis et ménager le partenaire chinois. Et c'est ce qui explique en partie les contorsions, notamment de la part de l'Allemagne, du Royaume-Uni, et une discrétion de la part de la France. Donc c'est aussi pour ça qu'on est face à un enjeu très large de maîtrise des données, de souveraineté sur les équipements, les réseaux qui par lesquels transiteront ces données stratégiques, et aussi de capacité de réaction politique face à ces enjeux. Pour l'Europe aujourd'hui, qui, comme je disais tout à l'heure, est vraiment prise en étau réellement entre États-Unis et Chine. Deux acteurs qui ont des stratégies nationales très élaborées, très construites, et ça depuis longtemps.
Est-ce que ça veut dire en creux que ces stratégies nationales, c'est précisément ce qui fait défaut à l'Europe? Alors quand je dis stratégie nationale, il faudrait peut-être justement dire plutôt stratégie communautaire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Europe pour faire le poids face à la Chine et aux États-Unis dans précisément cette bataille de la 5G?
Vous savez que ça, c'est un objet de débat, parce que les gens qui dépendent d'économie de marché libérale diront que le pire, c'est d'essayer de diriger, que à copier le modèle chinois, on risque d'y perdre beaucoup d'argent et aussi les caractéristiques de notre société. Mais tout de même, le marché européen est unique, mais il n'y a pas de politique industrielle. Il y a un budget extrêmement limité sur le plan européen. Il y a un peu de soutien à la technologie, mais sans commune mesure avec ce qui existe ailleurs, assez lent sur le plan réactif. Et surtout, il y a dans certains domaines, une absence de directive commune, de résolution commune. Alors, ça ne veut pas dire que d'un trait de plume, l'Europe pourrait tout contrôler. Si on prend l'exemple qu'on cite, la 5G est la norme, mais il faut pour ça avoir les techniciens, les centres d'évaluation. Il faut avoir, si vous voulez, la capacité d'information et de gestion. Donc on parle de quelque chose de longue haleine. Mais le principe même de l'Union européenne a été de regarder le marché européen et en gros le marché européen seulement. Donc, s'il reste plusieurs acteurs, bah, ça va. Si dans le reste du monde, on voit des nuages noirs s'amonceler et un géant unique se pointer, ça ne concerne pas légalement, si vous voulez, les autorités européennes. Il faut que ça frappe l'Europe. Ça peut être trop tard pour ça.
Oui, ça ne concerne pas légalement, mais on aurait pu imaginer une réflexion stratégique et une politique adéquate pour faire émerger des champions européens. Alors, il en existe quelques-uns aujourd'hui, Nokia, Ericsson, mais visiblement, dans cette course pour la 5G, ils sont plutôt derrière.
Ils sont plutôt derrière. Pour l'instant, ils ont aussi des atouts majeurs en matière de 5G. Le problème étant que ces deux acteurs opèrent aujourd'hui en Chine.
Et donc ils sont dépendants des marchés chinois.
Ils sont aussi dépendants en partie des marchés chinois. Et si Pékin devait prendre des mesures de rétorsion face aux pays européens qui refuseraient l'accès de Huawei à ces marchés, on peut très bien imaginer que les autorités chinoises prendront des sanctions contre Nokia et Ericsson.
Ça explique qu'ils aient fait très peu de lobbying sur cette question. Et puis d'autre part, ce sont des acteurs nordiques. Donc c'est pas la même chose que les intérêts de l'industrie européenne des grands pays. Donc vous voyez l'affaire Alstom-Siemens défrayer la chronique. Vous voyez pas cette affaire-là. Par parenthèse, même une entreprise comme Alstom a une joint venture en Chine avec son concurrent chinois principal, celui dont elle tire argument pour faire une fusion avec Siemens. Donc tous les industriels sont coincés par des parts, même minoritaires, même en déclin, du marché chinois. Mais l'intérêt public, l'intérêt collectif, c'est pas ça. C'est évidemment d'aller au-delà et éventuellement de les protéger de certaines de ces conséquences négatives.
Et puis il y a cette question aussi d'une désunion ou de profonde division entre les pays européens par rapport à la Chine, avec des rapports, des intérêts, des rapports de force divergents en fonction des pays. Non, est-ce que ça peut pas jouer ça aussi?
Moi je trouve ça extraordinairement dispersé, surtout quand on fait le bilan sur 28 pays des réactions sur la 5G et sur et plus précisément sur Huawei, c'est incroyablement dispersé. Les dernières déclarations en date émanent, et vous les avez citées, elles étaient en allemand dans le son qui a commencé notre émission, c'est Madame Merkel, avec, hélas, c'est le côté moins enthousiasmant de Madame Merkel, cette espèce de mollesse de réaction et d'indécision qui la caractérise parfois. Donc, aller au Japon dans une université pour dire il faudrait qu'on conclue un accord sur la 5G pour ne pas s'espionner mutuellement, c'est tout de même rire. Quel accord va-t-on conclure avec la Chine? Si vous voulez, les garanties, on les prend soi-même, évidemment. La déclaration sur le thème « on peut prendre des risques limités, on va partager les choses », mais elle n'explique pas pourquoi, c'est surtout une réaction au diktat américain, qui en effet, en plus, cabre un certain nombre de pays parmi ceux qui sont au cœur de l'Europe.
Julien Nocetti, sur cette question de la division des pays européens.
Je rebondis directement à propos de François Godemont, justement, en particulier sur le cas d'Allemagne. Vous avez un acteur majeur national, Deutsche Telekom, DT, qui voudrait conserver son partenaire chinois, et en même temps opère de très près aux États-Unis, parce que Deutsche Telekom possède T-Mobile, qui est un des opérateurs majeurs aux États-Unis. Donc on est là aussi dans des enjeux aussi très intégrés au fond. De la part de l'Allemagne vis-à-vis de Huawei et de la Chine en particulier. Vous avez la même configuration au Royaume-Uni, où d'une part le gouvernement britannique prend un discours très musclé vis-à-vis de Huawei. Vous avez certains acteurs nationaux, y compris les universités, type Oxford, qui excluent
aujourd'hui.
Tout à fait, exactement. Et de l'autre côté, vous avez un rapport du Centre national de cybersécurité qui assure que la menace liée à Huawei n'est pas si importante que ça et peut-être contournée. Et tout ça ne déterminant pas non plus la bonne politique à mener de la part de Londres. Donc on est aussi dans un relatif flou de la part des Britanniques sur ce sujet, sachant que en parallèle les quatre opérateurs nationaux se sont opposés à une interdiction pure et simple de Huawei. Donc c'est aussi très complexe de l'autre côté de la Manche.
Et puis il faut rappeler aussi que pour le moment, si j'ai bien compris, Huawei est l'entreprise la plus compétitive et qui est à même d'offrir les services les plus performants dans l'installation des infrastructures. Donc on peut aussi imaginer que de nombreux opérateurs téléphoniques disent à leur gouvernement non, nous on comprend que les États-Unis nous demandent de faire pression et d'empêcher Huawei de venir, mais si on raisonne en termes d'efficacité ou de services aux consommateurs, pour le moment, Huawei est le plus compétitif, François Godemont.
Les opérateurs, ils souhaitent la concurrence parmi leurs fournisseurs. S'ils ont un excellent fournisseur, peu importe les conséquences, s'il peut leur donner une longueur d'avance sur les concurrents, et ce dont ils ont peur, surtout, c'est le dilemme du prisonnier, si vous voulez, c'est que dans le pays voisin, leur concurrent distributeur, lui, continue. Donc on entend souvent parler des gens qui se tordent les mains en nous disant « si on prend pas Huawei, on va avoir 2 ans de retard sur la 5G ». Moi, je me pose quelquefois la question de savoir si 2 ans de retard, c'est vraiment une catastrophe à l'échelle planétaire ou si c'est le temps nécessaire pour sécuriser les choses.
Allez, restez avec nous tout de suite, direction l'Australie avec un nouvel invité.
Assurer le droit à la sécurité de nos infrastructures stratégiques est primordial. L'État ne doit pas être piraté. Cette question dépasse celle de la simple confidentialité des informations. Il s'agit de l'intégrité et de la viabilité de nos systèmes de données dont nous dépendons au quotidien.
Voilà, c'était Mike Burgess, le directeur du service des renseignements australien à propos de Huawei. C'était en octobre 2018. Et il faut rappeler que l'Australie a été l'un des premiers pays, quelques semaines seulement après les États-Unis, à exclure Huawei du marché de l'installation de la 5G. Et par ailleurs, début février, le pays a révélé avoir été victime d'une cyberattaque visant le système informatique du Parlement et plusieurs partis politiques. L'Australie a dénoncé un agent étatique sophistiqué à l'origine de l'attaque, sans plus de précision, mais beaucoup, notamment dans les médias, soupçonnent une action de la Chine. Alors sur cette relation de défiance qui s'installe entre la Chine et l'Australie et sur Huawei en particulier, je vous propose d'écouter Adam Lee, c'est un chercheur invité à l'Université nationale d'Australie. Il est au micro de Samuel Bernard.
I think the main reason is because Australia worries about the security implications of having.
De mon point de vue, la raison principale tient au fait que l'Australie s'inquiète des conséquences pour sa sécurité de la participation de Huawei à l'installation du réseau de 5G en Australie. La connexion entre Huawei et le gouvernement chinois et la possibilité qu'aurait l'État chinois d'utiliser Huawei pour accéder aux données, des données essentielles pour l'économie de demain, voilà les raisons essentielles selon moi. Et je pense donc que cela s'appuie sur des considérations avant tout économiques. Ensuite, il faut reconnaître le fait que l'Australie a des relations très proches avec les États-Unis en tant que membre de l'alliance des Five Eyes.
Adam Nee, pour rappel, l'alliance des Five Eyes, c'est ce partenariat renforcé entre les services de renseignement néo-zélandais, canadiens, états-uniens, britanniques et australiens. L'Australie est-elle particulièrement un bon élève au sein de cette alliance?
I think Australia has been a reliable partner.
En tant que membre, l'Australie a été un partenaire fiable pour les États-Unis et les autres nations dans sa zone d'influence géographique. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est pas la première fois que le gouvernement australien limite les activités de Huawei. Il y a 5 ans, le gouvernement australien avait exclu Huawei de l'installation du haut débit. Mais cette fois, l'annonce l'an dernier sur la 5G a été très médiatisée. Et l'Australie a été la première nation, après les États-Unis, à annoncer publiquement l'exclusion des activités de Huawei et ZTE sur le réseau 5G.
Si le gouvernement australien est assez prudent concernant l'attaque informatique dénoncée en février comme venue d'un agent étatique sophistiqué, la presse australienne, elle, pointe directement la Chine. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison d'être prudent?
Nous n'avons pas suffisamment d'informations, du moins d'informations publiques, pour déterminer si l'origine de l'attaque informatique provient véritablement de l'État chinois ou d'un agent lié à la Chine. Alors, nous n'avons pas de preuves publiques. Mais les agences de renseignement occidentales et l'agence australienne ont fait de nombreuses annonces qui dénoncent les activités d'espionnage soutenues par la Chine et les tentatives d'entrer dans les réseaux étrangers, incluant l'Australie. Donc c'est un enjeu très important en Australie, notamment parce que ce sujet est délicat. L'Australie ne sait pas comment réagir, comment gérer les relations entre la Chine, puissance montante, qui est autoritaire, et les États-Unis, qui ont des valeurs diamétralement opposées et qui ont traditionnellement dominé la région Pacifique. En tout état de cause, Il n'y a pas assez de preuves pour pointer la Chine sur ce cas précis. Mais la Chine fait bel et bien des cyberattaques dans le monde entier, y compris en Australie.
Vendredi dernier, un des ports les plus importants de Chine, le port de Dalian, a bloqué les arrivées de charbon australien. Et une fois encore, les médias australiens soupçonnent que le contentieux avec Huawei soit à l'origine de cet arrêt des exports australiens. Ils y voient un nouvel acte de rétorsion. Quels sont les leviers économiques de la Chine pour essayer de faire plier le gouvernement australien?
Tout d'abord, je pense que nous n'avons pas les preuves pour dire que ces deux événements sont liés. Mais ce ne serait pas la première fois que des signaux sont envoyés par le gouvernement chinois. Les autorités australiennes ont fait des campagnes de sensibilisation et prévenu les touristes, mais aussi les étudiants, d'être sur leur garde. Ces mises en garde sont apparues dans ce contexte où les tensions bilatérales se multiplient. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples où la Chine a exprimé son mécontentement. Ce ne serait donc pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière. Ceci étant, la Chine peut jouer sur de nombreux leviers économiques. L'Australie est très dépendante des exportations en Chine. Ces exportations ont permis à l'Australie de se développer à grands pas ces 20 dernières années sans aucune récession. Cela concerne les marchandises, mais aussi le tourisme, l'éducation et de nombreux autres services professionnels. Donc les Chinois ont à leur disposition tout un éventail de leviers qu'ils utiliseront pour punir l'Australie s'ils considèrent que c'est nécessaire.
La classe politique est-elle, disons, unie dans cette éviction de Huawei du marché australien?
L'exclusion de Huawei fait largement l'unanimité dans la classe politique australienne. Certains parlementaires sont contre l'exclusion, mais ils sont très minoritaires. Considérant l'état des relations Chine-Australie, il faut être un politicien assez téméraire pour se lever contre l'exclusion de Huawei, surtout dans ce contexte où la Chine est soupçonnée de cyberespionnage.
Et dernière question, Adam Nick, que pensent les opérateurs télécoms australiens de l'exclusion de Huawei du marché de la 5G?
Les télécoms ne sont pas vraiment favorables à l'exclusion de Huawei, étant donné que ça va augmenter le coût de la construction du réseau 5G. Ça va également réduire la compétition entre les acteurs du marché pour le développement du réseau. L'industrie n'est pas satisfaite, mais à ce stade, je crois qu'elle a accepté que le gouvernement ait pris cette décision et qu'ils devront mettre en place ce réseau sans la participation de Huawei.
Voilà, c'était le chercheur Adam Lee, chercheur invité à l'Université nationale d'Australie, au micro de Samuel Bernard. Adam Lee disait, l'Australie ne sait pas comment réagir entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que justement ce pays, l'Australie, est un cas peut-être assez révélateur de ces pays qui se retrouvent prisonniers de cette bataille mondiale entre les deux grandes puissances que la Chine et les États-Unis, François Godemont?
Pour le coup, je crois qu'on déborde la 5G.
Oui, tout à fait.
L'Australie, elle est actuellement dans ce que j'appellerais une cure de détox par rapport à la Chine. Elle a été le premier fournisseur de matières premières, gagnant beaucoup d'argent, mais avec l'entrée des entreprises chinoises. Les milliardaires, les millionnaires se sont installés en masse en Australie avec une politique très favorable qui leur permet d'ailleurs d'aller et venir. Il y a des centaines de milliers d'étudiants chinois. Derrière ça, la Chine a construit des réseaux d'influence de plus en plus importants. Vous avez des anciens premiers ministres australiens qui sont de véritables VRP pour la Chine. Ils en vivent, il ne faut pas le cacher. Vous avez des centres universitaires qui ont pu être complètement financés par la Chine ou par ces grands entrepreneurs chinois. Alors là, est-ce que par exemple l'interdiction du charbon, ça a un rapport direct avec Huawei? Peut-être pas, ça peut aussi avoir un rapport avec le plus influent des milliardaires chinois en Australie, vient d'être interdit de séjour. Il ne peut plus revenir en Australie, ça s'est produit quelques jours plus tôt. Ça pourrait aussi bien être ça. Pour la question de la proximité ou de la sensibilité, moi je ne prends absolument pas position sur les affaires d'espionnage de type Five Eyes, parce que très franchement, qu'est-ce qu'on en sait? Et je m'échouais à observer quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde de la 5G et des flots de données, la proximité, ça ne veut plus rien dire.
Et comme vous le dites, effectivement, sur le cas de la relation bilatérale Chine-Australie, il y a quelque chose, bien sûr, qui dépasse totalement la question de Huawei, qui n'en est qu'un des aspects, et qui est une... Alors, du côté australien, ce qu'on peut lire, et notamment dans une loi qui avait été votée en 2018, c'est une question d'ingérence. Le Parlement a voté une loi, une série de lois d'ailleurs, pour limiter l'ingérence chinoise dans les affaires intérieures. Est-ce que ce terme-là vous paraît juste ce qui est en train de se jouer actuellement en Australie? C'est une forme d'ingérence par tout type de lobbying, d'infiltration dans tout un tas de milieux?
C'est une question qu'on pourrait poser ailleurs, sur le rôle des anciens hauts fonctionnaires ou des anciens hommes politiques. Et c'est une question qu'on pouvait poser aussi, pour être honnête, par rapport aux États-Unis, parce qu'on a vu le même genre de phénomène. Simplement, les États-Unis n'ont pas tout à fait les mêmes conséquences que peut avoir la Chine, qui a un cahier des charges quand même assez rigoureux, assez précis. J'en dirai pas beaucoup plus, sinon qu'effectivement, l'Australie apparaissait comme on pointe, mais vous avez des pays européens qui sont touchés, et on s'aperçoit que les lois, par exemple, ou les règles éthiques européennes, par exemple, sur l'emploi d'anciens hommes politiques ou fonctionnaires, sont souvent pas assez développées.
Julien Nocetti, une réaction peut-être à cette analyse qu'on a entendue par téléphone?
Non, ce qui me frappe, c'est une même perception des menaces australiennes et américaines vis-à-vis de cette menace chinoise, notamment dans le champ numérique, qui couple à la fois perpétration du cyberattaque et questions économiques et de régulation beaucoup plus large, à la fois la question des transferts de technologie, les questions de propriété intellectuelle, qui sont extrêmement extrêmement importantes d'ailleurs, et en même temps une interdépendance économique très très forte, à la fois l'Australie vis-à-vis de la Chine et des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donc ce qui explique aussi en partie ce positionnement très offensif de l'Australie vis-à-vis de l'affaire Huawei. Après, la différence étant le relatif flou qui entoure la scène australienne vis-à-vis des questions chinoises plus larges.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. François Gaudemont, professeur des universités en sciences... Je relis la mauvaise présentation. François Gaudemont, merci beaucoup. Je rappelle, conseiller Asie à l'Institut Montaigne. Votre dernier ouvrage, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, s'est paru aux éditions Odile Jacob en 2018, coécrit avec Abigail Vasselier. Et merci infiniment à vous, Julien Nocetti, chercheur à l'Institut français des relations internationales.
J'avale des pilules qui sont fabriquées par... L'ordinateur. Quand je vais me promener, je ne vais jamais au hasard. J'ai une voiture téléguidée, l'itinéraire est fait avant mon départ par... L'ordinateur. Pour les filles, pas de problème, je ne perds pas mon temps à leur dire je t'aime. Tous les soirs, je dois aller chercher une fille qui chaque fois est sélectionnée par... L'ordinateur. Quand je pense aux arriérés...
Voilà, l'ordinateur par Henri Salvador, cette chanson Betagama, l'ordinateur. Eh bien, quant à nous, on se retrouve demain dans Culture Monde à 11h, mais dans un instant, c'est la grande table.